Voici les textes liturgiques pour ce deuxième dimanche après Pâques, dimanche du bon pasteur, épître tiré de Saint-Paul au de Saint-Pierre, pardon. Première épître de Saint-Pierre. Mes bien-aimés, le Christ a souffert pour nous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fausseté. Lui qui est outragé, ne rendait point l'outrage, qui maltraitait, ne faisait point de menaces, mais se livrait à celui qui le jugeait injustement. Qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes venus à celui qui est le pasteur et l'évêque de vos âmes. On se lève pour l'évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, « Je suis le bon pasteur. » Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire est celui qui n'est pas le pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup. Laisse-là les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qu'il n'a point nul souci des brebis. « Je suis le bon pasteur. » Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme mon père me connaît et que je connais mon père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix. Il y aura une seule bergerie, un seul pasteur. Veuillez vous asseoir. Ainsi, quelques annonces. Alors attention, cette semaine, je serai dans le nord de la France pour ma mission mensuelle, pour aider un petit peu les fidèles qui sont très isolés là-haut. Il n'y aura qu'une messe ce lundi à 8h. Pas de cours, évidemment. Ce mercredi, on reprendra le mercredi suivant. Je crois que c'est le 1er mai, il me semble. Donc, il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se passe. Vous voyez qu'on est de moins en moins nombreux ici. Par contre, on a de plus en plus de monde sur Internet. Alors, je ne comprends plus rien. Mettons tout ça entre les mains du bon Dieu. Donc, on a dépassé, avec la grâce du bon Dieu, les 2000 abonnés maintenant sur la chaîne YouTube. Tant mieux. On a de plus en plus de monde qui utilise les messes, utilise les cours. Deo gracias. Les travaux avancent bien pour la nouvelle chapelle. On a commencé maintenant la mezzanine. Mon ami commence à mettre les bancs, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Merci encore une fois à tous ceux que je ne connais pas en général qui continuent de nous aider pour payer les dernières factures. Il y a un dernier coup de collier à donner pour payer les dernières factures des travaux. On est presque au bout de nos peines. Donc merci encore une fois à tous ceux qui nous aident. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, le thème de l'Évangile et de l'Épître de Saint-Pierre aujourd'hui sont des thèmes extrêmement importants. Ils nous rappellent l'importance de l'Église. Dieu sait si aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être des hommes d'Église, devenir des hommes d'Église, penser tel que l'Église a toujours pensé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, le jour de Pâques, il va passer encore 40 jours avec ses disciples, avec ses apôtres, avec ses amis, et puis il va remonter au ciel, le jour de l'Ascension. Il n'a pas voulu nous laisser seuls. Et donc, il a voulu se continuer ici-bas, sur la terre. Et pour pouvoir se continuer ici-bas, sur la terre, rester d'une certaine façon ici-bas, sur la terre, il a créé son Église. Il a voulu son Église. La continuation de la présence de notre Seigneur sur la terre. Et dans cette Église, il a donné quelque chose d'extraordinaire. Dans son Église, qui est le corps mystique du Christ, il a voulu en même temps conserver son corps physique. Il a conservé son corps physique par l'institution du sacerdoce. Et par le sacerdoce, il nous a donné la Sainte Messe. Par la Sainte Messe, il nous a donné la Sainte Eucharistie. Par la Sainte Eucharistie, il nous a donné justement la communion, le moyen de nous unir à ce même corps, cette même âme, le même sang, la même divinité qui a été répandue sur la croix, le sang qui a été répandu sur la croix. Et donc, il nous faut, mes bien chers frères, avoir un amour débordant pour la Sainte Église, surtout aujourd'hui plus que jamais, où elle est vilipendée, elle est méprisée comme elle n'a peut-être jamais été. Alors, de même que pour qu'un corps soit vivant, il faut que le corps soit associé à une âme. Un corps sans âme, il y en a. Vous allez dans les cimetières, vous avez plein de corps sans âme. Ils deviennent la proie des vers. Et donc, il faut une âme pour donner la vie au corps. L'âme est la forme du corps. Donc, un corps sans âme est un cadavre. De la même façon, dans le corps mystique du Christ, puisque l'Église catholique est le corps mystique du Christ, il faut aussi un corps et une âme. Pas oublier ça. Et s'il n'y avait que le corps sans l'âme, il y aurait un problème. Donc il y a le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, mystiquement, qui restent ici-bas sur la terre par la Sainte Église. Qu'est-ce que c'est que le corps de l'Église? Le corps de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. Toutes les personnes qui sont baptisées, qui ont le baptême catholique, un baptême valide, font partie du corps de l'Église. Mais ça ne suffit pas. Pour que ce corps soit vivant, il faut en plus rajouter une âme. Et cette âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui vivent dans l'état de grâce. Tous ceux qui sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité. L'état de grâce et la vertu de charité, c'est une seule et même chose. Rappelez-vous que la vertu de charité, c'est tout simplement l'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est Dieu qui vit dans les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une âme en état de grâce. Voilà ce qu'il faut comprendre, bien sûr, frère. Et donc, puisque le corps mystique du Christ est l'association d'un corps et d'une âme, il va donc y avoir quatre sortes de gens sur la terre. On peut diviser de différentes façons. D'abord, la première division, évidemment, la plus importante, c'est que c'est l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le dimanche du bon pasteur, et l'Église nous rappelle qu'il veut être, il veut avoir un seul troupeau et une seule, et un seul troupeau et un seul pasteur. Et qu'il veut, et qu'il y a donc deux sortes de gens sur la terre, à ceux qui appartiennent au troupeau et à ceux qui sont en dehors du troupeau. Et qu'est-ce que veut notre Seigneur Jésus-Christ? Il veut un seul troupeau et un seul pasteur parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. C'est le dogme essentiel de la foi catholique. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut le prêcher, ce dogme. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ souhaite qu'une seule chose, c'est ramener toutes les âmes possibles à l'intérieur de l'Église parce qu'en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Il n'y a même pas de valeur de salut en dehors de l'Église catholique. Et concernant l'union du corps et de l'âme, du corps mystique du Christ, et notre division, une autre répartition, si vous voulez, qui va se faire, il faut penser à tout ça. Il y a d'abord sur la terre des gens qui appartiennent au corps et à l'âme de l'Église. Ils appartiennent au corps de l'Église parce qu'ils sont baptisés, ils appartiennent à l'âme de l'Église parce qu'ils vivent un tas de grâce. Ce sont les bons catholiques. Ensuite, il y a ceux qui appartiennent au corps parce qu'ils sont baptisés, le caractère du baptême ne peut pas être enlevé, mais qui n'appartiennent pas, hélas, à l'âme de l'Église, parce qu'ils vivent sans le sacrement de pénitence, sans le sacrement de la Sainte Eucharistie, qui ne cherchent pas à rester en état de grâce. Ce ne sont pas des âmes mortes, ce sont des âmes moribondes. Comme une branche, si vous voulez, sur un arbre qui ne reçoit plus la sève comme venant du tronc et des racines et qui va mourir, qui va devenir de plus en plus frêle et finir par mourir. Et donc, le deuxième groupe comporte tous ceux qui sont légions aujourd'hui, qui vivent et qui sont baptisés, donc ils ont le caractère du sacrement de baptême, mais qui n'ont pas l'état de grâce, qui n'ont pas la charité. Et comme il manque la charité, que la charité est absolument indispensable pour aller au ciel, ces gens-là ne peuvent pas sauver leurs âmes, tant qu'ils restent dans cet état-là. Puis il y a un troisième groupe. Le troisième groupe, c'est ceux qui ne sont pas baptisés, donc ils n'appartiennent pas au corps de l'Église. Et qui ne cherchent pas du tout à vivre en état de grâce, et donc ils n'appartiennent ni au corps ni à l'âme de l'Église. Ceux-là non plus, tant qu'ils restent dans cet état-là, ne peuvent pas accéder au paradis, c'est impossible. Mais il ne faut pas oublier, mes bien chers frères, qu'il y a un quatrième groupe dont on ne parle pas assez. Et tous ceux qui ne sont pas baptisés, mais qui appartiennent à l'âme de l'Église. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est possible. Il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit. Dans l'histoire de l'Église, on le voit très bien, qui ne sont pas baptisés, ils n'ont jamais reçu le baptême d'eau, mais qui appartiennent à l'âme de l'Église. Parce qu'ils vivent en état de grâce. Et c'est possible, c'est ce qu'on appelle le baptême de désir. Le baptême de sang est comme ça aussi. Quand on voit, par exemple, dans l'histoire de l'Église, les grandes persécutions du début de l'histoire de l'Église, des millions de martyrs, beaucoup de ces martyrs n'étaient pas baptisés. Ils étaient catéchumènes. Étant catéchumènes, ils n'appartenaient pas au corps de l'Église. Ils n'étaient pas encore baptisés, ils n'avaient pas reçu le baptême d'eau. Mais ils avaient un désir du baptême. Prenez dans votre missel, par exemple, à la fin du mois de janvier, je crois que c'est le 23 janvier, la fête de Sainte-Émérancienne, une martyre des premiers siècles. Sainte Émérancienne, c'était la sœur de lait de Sainte Agnès. Sainte Agnès, une grande martyre. Et Sainte Émérancienne était en train de prier sur la tombe de Sainte Agnès, et Sainte Émérancienne n'était pas baptisée, était catéchumène. Et elle va être massacrée pour sa foi, parce qu'elle avait déjà la foi. Elle va être massacrée pour sa foi par les païens, elle est canonisée par l'Église, Sainte Émérancienne. Et dans l'histoire de sa vie, l'Église dans le bréviaire, l'Église nous dit qu'elle a été baptisée dans son propre sang, qu'on appelle le baptême de sang. Un autre exemple très connu dans l'histoire de l'Église, c'est dans la vie de saint Ambroise, qui était l'évêque de Milan, celui qui a converti saint Augustin, le plus grand docteur de l'Église. Il préparait au baptême l'empereur de l'époque, l'empereur Valentinien. Et après, Valentinien, t'es catéchumène, t'es pas encore baptisé. T'es pas encore baptisé. Et se préparant au baptême, il voyait régulièrement saint Ambroise pour recevoir l'information dont il avait besoin. Et il est mort malheureusement dans une bataille. Il n'était pas encore baptisé. Il est mort dans une bataille sans avoir été baptisé. Et c'est saint Ambroise lui-même qui a fait la messe de Requiem, qui a célébré la messe de Requiem de l'empereur Valentinien en disant qu'il avait le baptême de désir. Vous voyez comme c'est important de comprendre toutes ces choses-là, parce que le démon, évidemment, va mettre sa patte là-dedans. Le démon met sa patte sale partout. Et le démon, justement, va pousser des gens à penser que ben, si on peut pas avoir de baptême, si on n'a pas le baptême d'eau, on ne peut pas aller au ciel. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui ont ce baptême de désir. Pour une fois, beaucoup des premiers chrétiens étaient des catéchumènes, n'étaient pas encore baptisés, mais ils avaient ce désir du baptême. Et ce désir du baptême est absolument fondamental, ce qu'on appelle le baptême de désir. Et il y a malheureusement une hérésie, qui est une hérésie que je connais bien parce qu'elle est américaine, le père Finney, un prêtre de Boston, dans le Massachusetts américain, qui a nié le baptême de sang, le baptême de désir. Et parce qu'il s'appelait le père Léonard Finney, on a appelé cette secte des finéistes. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma chapelle de New York avec ces finéistes qui prétendaient que sans baptême d'eau, mais on ne pouvait pas aller au ciel. Et qui mettaient donc en enfer tous les saints qui avaient été canonisés par l'Église, rien que ça, canonisé par l'Église et qui n'avait pas reçu le baptême d'eau, comme par exemple Saint-Émérancienne dont je viens de vous parler. Et finalement, il a été excommunié par le pape Pie XII en 1953. Le pape Pie XII l'a excommunié parce qu'il niait le baptême de sang, le baptême de désir. Et les finéistes, il y en a toujours, malheureusement, ils commencent à arriver un petit peu en France maintenant, on en a parfois dans certaines de nos chapelles, et les finéistes prétendent que justement le pape Pie XII a excommunié injustement le père Finney parce qu'il disait, il niait, parce que Pie XII niait le dogme hors de l'Église catholique, pas de salut, qui est un dogme fondamental de l'Église catholique. Et là, il faut bien comprendre que si le pape Pie XII a excommunié le père Finney, c'est pas parce que celui-ci enseignait hors de l'Église catholique, pas de salut, mais parce que celui-ci niait le baptême de sang, le baptême de désir, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, comme il faut protéger notre Église. Le démon va attaquer l'Église, c'est normal. Le démon va attaquer l'Église, va attaquer tous les dogmes de l'Église catholique, parce que le démon ne peut pas supporter cette idée du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la phrase de l'Évangile d'aujourd'hui. Dieu veut un seul troupeau, un seul pasteur, c'est ça le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Personne ne peut être sauvé sans appartenir à l'Église catholique. Mais on peut appartenir à l'Église catholique dans certains cas particuliers. Alors attention, encore une fois, il ne faut pas faire dire ce que je n'ai pas dit. Imaginez quelqu'un qui dise, voilà, bon, moi j'ai un baptême de désir, j'ai la possibilité de me faire baptiser avec un baptême d'eau, mais je ne cherche pas à me faire baptiser, je suis sauvé par le baptême de désir. Alors, attention, le baptême de désir, justement, ne va fonctionner, si vous voulez, en quelque sorte, que si on se retrouve dans un cas d'impossibilité de recevoir le baptême d'eau. Les gens racontent des grosses bêtises sur ce sujet. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est par exemple le dogme de l'Église, c'en est un, qui dit qu'un acte de contrition parfaite peut effacer tous les péchés, ce qui est vrai. Qu'est-ce qu'un acte de contrition parfaite? C'est regretter tous ses péchés par amour de Dieu. Bon. Et c'est très important quand on ne peut pas avoir de prêtre immédiatement ou parce que tout simplement on vit dans un pays dans lequel il n'y a pas de prêtre. Il y en a beaucoup comme ça. Bon. Si je vis dans un pays dans lequel il n'y a pas de prêtre, j'ai le malheur de commettre une faute grave. Il ne faut pas se décourager pour autant. Il faut demander la grâce d'un acte de contrition parfaite, regretter son péché par pur amour du bon Dieu. On dit un acte de contrition du fond du cœur, on rajoute l'acte de charité et ça permet d'obtenir avec la grâce du bon Dieu, un acte de charité parfaite qui efface tous les péchés. Et non seulement qui efface tous les péchés, mais qui en plus efface les peines du purgatoire. Mais attention, les petits malins maintenant, ils sont de plus en plus nombreux qui disent... Ah, moi, je fais un acte de contrition parfaite, j'ai un prêtre à ma disposition, mais je ne me dérange pas pour aller le voir et j'utilise l'acte de contrition parfaite. Attention, ça ne marche plus, là. Parce que là, il y a une mauvaise volonté évidente. De même que celui qui peut se faire baptiser avec un baptême d'eau et qui se contente du baptême de désir, à ce moment-là, le baptême de désir n'est pas suffisant. De la même façon, quelqu'un qui prétend pouvoir avoir un acte de contrition parfaite tout le temps, alors qu'il a la possibilité de se confesser, un devoir grave de se confesser. Et c'est malheureusement ces erreurs qui se répandent maintenant partout dans même dans nos milieux. Ils s'appellent entre eux, ils commencent à s'appeler les Japonais, sous prétexte que les Japonais sont restés pendant 3 siècles sans prêtre, et donc les Japonais ont réussi, les catholiques japonais, cette chrétienté qui avait été fondée par saint François Xavier, disciple de saint Ignace de Loyola, sont restés effectivement trois siècles sans prêtre. Mais ils n'avaient pas de prêtre. Et il fallait bien qu'ils fassent quelque chose, ils n'allaient pas se suicider sous prétexte qu'il n'y ait plus de prêtre. Et donc, ils ont conservé la foi, les anciens ont enseigné le catéchisme aux enfants, ils ont baptisé les enfants, ils se mariaient avec 2 témoins, parce que dans ces cas-là, c'est un mariage parfaitement valide, à partir du moment où on accepte les conditions du mariage chrétien, les enfants, l'unité, l'indissolubilité, et ils sont restés pendant 3 siècles sans prêtre. Et les petits malins maintenant qui disent, « Ah non, les Japonais, on va faire pareil, plus de messe, plus de sacrement, plus rien, l'acte de contrition parfaite, Deo gratias. » Et le dimanche, au lieu d'aller à la messe traditionnelle, non, d'un coup, parce que j'en ai une juste à côté de chez moi, je dors jusqu'à midi, après j'ai pêché la truite toute l'après-midi. Deo gratias, alléluia. Mais attendez. Dans ce cas-là, si vous avez un prêtre à votre disposition, justement, cette façon de procéder est tout à fait dangereuse. Et c'est comme ça que beaucoup de gens perdent la foi. Beaucoup de gens perdent la foi. Alors attention. Donc il faut justement demander au bon Dieu cette grâce de ne jamais perdre la foi catholique. Un jour peut-être, il n'y aura plus de prêtre, c'est possible. Vous savez qu'il y a une thèse que je souscris complètement qui dit que la fin du monde arrivera le jour où le dernier prêtre mourra. Et je pense que c'est vrai. Parce que le jour où le dernier prêtre mourra, il n'y aura plus de messe, plus de confession. Et ce sera la fin du monde. Mais pour le moment, les prêtres, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns qui traînent à droite et à gauche. Hein, d'autres, il y en a un qui traîne à Baliès. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc, il faut bien comprendre cette distinction fondamentale entre le corps et l'âme de l'Église. Il faut justement, le plus important, c'est l'âme de l'Église. Vous voyez ? Deuxième chose aussi qui est importante, c'est aussi un point de catéchisme essentiel, quelles sont les conditions pour être catholique ? J'ai remarqué, quand je pose cette question aux gens, ils me regardent avec des yeux ronds. Ah bon, bah oui, catholique, oui, bah, c'est quoi les conditions ? Je ne sais pas. Il y en a quatre. Viens les connaître. Première condition, le baptême. Deuxième condition, la foi. Et Saint Pie X, dans son catéchisme, parle de la vraie foi. Pourquoi il parle de la vraie foi ? Parce qu'il y a une fausse foi. De même que Saint Louis-Marie Grégoire de Montfort parle de la vraie dévotion à Marie. Pourquoi il parle d'une vraie dévotion à Marie ? Parce qu'il y a une fausse dévotion à Marie. Donc il y a une vraie foi, il y a une fausse foi. Ceux qui prétendent aujourd'hui pouvoir être des Japonais alors qu'ils ont la possibilité d'accéder à un prêtre, c'est une fausse foi. Donc, le baptême, la foi, les sacrements, au moins quand on les a, donc on a toujours, à savoir le baptême, excusez-moi, le baptême et le mariage. Et dernière condition, surtout aujourd'hui, plus que jamais, de reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les gens nous disent, monsieur l'abbé, il n'y a plus de pape depuis Pie XII, donc on ne peut plus reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, le dogme demeure. Le pape est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le dogme demeure, même si malheureusement, à cause des malheurs des temps, depuis la mort de Pie XII, il n'y a plus rien. Le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'un vicaire. Encore une fois, quand on demande aux gens, c'est quoi le vicaire ? Que veut dire ce mot, vicaire ? Il y a deux choses. Le vicaire, il est représentant et il est successeur. Successeur de Saint-Pierre, représentant de notre Seigneur. Attention ! Le pape n'est pas successeur de notre Seigneur, ce qu'on entend régulièrement. Si le pape était successeur de notre Seigneur Jésus-Christ, il serait Dieu. Le pape n'est pas Dieu. Le pape est successeur de Saint-Pierre et représentant de notre Seigneur Jésus-Christ afin de garder le dépôt de la foi. Donc un pape, c'est quelqu'un qui garde le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi, c'est quoi ? Le dépôt de la foi, il est clos à la mort de Saint-Jean, dernier des apôtres, qui est mort à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle. C'est ça le dépôt de la foi. Donc un pape est quelqu'un qui garde le dépôt de la foi. On ne peut pas séparer les deux choses. Donc si quelqu'un ne garde pas le dépôt de la foi et se prétend pape, ce n'est pas possible, c'est impossible. Ce serait la quadrature du ciel, du cercle. Demander à un chat d'étudier la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, ce serait plus simple. Vous voyez ce qu'il faut comprendre ? Donc le pape est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est pour cela que le bon Dieu lui a donné un don extraordinaire qu'il n'a même pas voulu donner à sa mère. Il lui a donné le don de l'infaillibilité lorsque en tant que pape, il parle sur la foi et les mœurs avec intention d'obliger toute l'Église. Le pape, dans ce cas-là, était infaillible. La très sainte Vierge Marie, strictement parlant, n'est pas infaillible. Elle n'a pas ce don. Et l'Immaculée Conception. Attention, ne pas oublier aussi une chose très importante. Et là, encore une fois, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur ce sujet. Être infaillible, ça ne veut pas dire être impeccable. Le pape a l'infaillibilité quand, en tant que pape, sur la foi et les mœurs, il oblige l'Église, il oblige toute l'Église, les quatre conditions réclamées par le Concile Vatican I, 1870. Mais le pape n'est pas impeccable. C'est-à-dire quoi, impeccable ? Impeccable sans péché. Il y a que deux personnes impeccables, la Sainte Vierge et notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous et moi, on n'est pas impeccables. Oui, un enfant juste après le baptême, un bébé juste après le baptême, il est impeccable, donc il n'a pas commis son premier péché. Mais l'impeccabilité, le pape n'est pas impeccable. C'est pour cela qu'il y a un poste très important au Vatican pour le pape, à savoir le confesseur du pape. Confesseur du pape, c'est en général un cardinal déjà très âgé, qui a beaucoup d'expérience, qui confessait le pape. Pas rien confesser le pape. Le pape, il a besoin de se confesser comme tout le monde. Le pape, il peut malheureusement tomber dans n'importe quel péché de façon privée. Il peut boire un coup de trop, il peut se mettre en colère avec sa gouvernante ou je ne sais pas quoi. Il peut être tenté par le mensonge. Il peut commettre des péchés comme ça. Parce que le pape n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais il est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, représentant notre Seigneur Jésus-Christ, gardien du dépôt de la foi. Le pape n'est pas propriétaire de la foi catholique. Le pape n'a absolument pas le droit d'inventer un dogme. Il faut que le dogme soit déjà dans le dépôt de la foi, puisque le dépôt de la foi ne lui appartient pas. Vous voyez, comme toutes ces choses sont importantes. Alors attention, là encore une fois, d'éviter les erreurs monumentales qu'on entend sur le sujet. Des gens qui nous disent, même sur l'abbé, le pape, il est infaillible que dans les grandes définitions, c'est très pratique parce que ça arrive une fois tous les 150 ans. Alors une fois tous les 150 ans, une grande définition solennelle du pape, alors là on est obligé par l'Église de suivre le pape, il est infaillible dans ce cas-là, alors là je suis obligé d'obéir. Mais tout le reste du temps, j'en fais qu'à ma tête. Beaucoup de catholiques sont comme ça. Attention! Le dernier dogme de foi, c'est quoi? Le dernier dogme de foi, c'est l'Assomption entre Sainte Vierge et Marie. 1950 par le pape Pie XII. Mais le pape est infaillible, pas simplement dans son magistère extraordinaire. On nous raconte ça tout le temps. Infaillible, ça veut dire extraordinaire, mais pas du tout. Et si les gens se prenaient la peine tout simplement de lire la déclaration d'infaillibilité du Concile Vatican I, ils verront que l'Église catholique enseigne que le pape est infaillible dans son magistère extraordinaire, mais aussi dans son magistère ordinaire. Il est infaillible comme pape avec tous les évêques qui suivent le pape. Et c'est en quelque sorte non pas les évêques qui vont donner l'infaillibilité au pape, mais l'infaillibilité du pape qui va s'unir avec tous les évêques. Mais l'infaillibilité vient du pape, elle ne vient pas des évêques. Et donc quand le pape parle tout seul, qu'on appelle le magistère pontifical, le magistère du pontife, que ça soit de façon ordinaire ou de façon extraordinaire, il est infaillible. Et quand le pape parle comme avec son magistère universel, en union avec tous les évêques du monde entier, ça peut être aussi infaillible, c'est aussi infaillible dans le magistère ordinaire et dans le magistère extraordinaire. C'est-à-dire quoi ça? Il y a quatre cas d'infaillibilité pour un pape. Il est infaillible dans son magistère pontifical ordinaire, son magistère pontifical extraordinaire, son magistère universel ordinaire et dans son magistère universel extraordinaire. Donc loin de nous l'idée que le pape est infaillible que dans son magistère extraordinaire. C'est faux. Et c'est ça qui ouvre la porte à la destruction de l'Église. Et malheureusement, la Fraternité Saint-Pédis a une responsabilité énorme là-dedans parce que c'est la Fraternité Saint-Pédis, entre autres, qui raconte que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire, ce qui est complètement faux. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Tous les jours. Il n'a pas dit « Je suis avec le pape » uniquement quand il fait une grande déclaration extraordinaire. Non, « Je suis avec vous », il parlait à Saint-Pierre, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors, monsieur l'abbé, encore une objection à laquelle il faut vite répondre. Et j'en dis, mais monsieur l'abbé, si ce que vous dites est vrai, comment se fait-il que ben, depuis la mort du pape Pie XII, on entend des absurdités ahurissantes contre le dépôt de la foi. Ben, je viens de vous donner la réponse, la catéchisme nous la donne. Le pape, c'est quelqu'un qui garde le dépôt de la foi. Si quelqu'un ne garde pas le dépôt de la foi, il ne peut pas être pape, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors comment le bon Dieu, et pourquoi le bon Dieu permet-il que depuis la mort du pape Pie XII, eh ben, ceux qui se prétendent pape à Rome détruisent l'un après l'autre tous les dogmes de la foi catholique? Comment peut-on accepter des choses pareilles? J'en sais rien, moi. Pourquoi le bon Dieu permet des choses pareilles? J'aimerais bien avoir 200 personnes à la messe ici. Bon, on a un petit troupeau maintenant. Eh ben, s'il faut avoir 10 catholiques qui restent dans la région, eh ben, on travaillera pour ces 10 catholiques. Si j'en ai 200, ce serait peut-être mieux. Pas forcément. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Regardez ce qui s'est passé à la Passion. Hein. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'au pied de la croix, les apôtres, ils ne bousculent pas au portillon, comme on dit vulgairement. Pas grand monde. Hein. Pourquoi? Ah, mais c'est pas possible. Ben oui, ben oui. Il n'y a qu'une seule qui avait gardé la foi, c'est la seule personne qui a gardé la foi, c'est la Sainte Vierge Marie. Donc ne nous décourageons pas, mes bien chers frères. On travaille pour le bon Dieu et on ne travaille pas pour nous. Hein. Je peux vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous retrouvez le nom de ce saint. C'était dans les îles du Pacifique. Ça, je l'ai vécu moi-même parce que j'ai missionné les îles du Pacifique. Pas toutes, mais une partie d'entre elles. C'était à partir des îles Fidji. Et quand j'étais en Nouvelle-Zélande, et il y a un saint Non, j'ai oublié le nom à l'instant. Ça va me revenir quand j'y penserai plus. Un saint qui a passé sa vie, une grande partie de sa vie missionnaire dans les îles de Wallis et Futuna. Il a prêché. Rien. Des années et des années. Il a pu baptiser quelques bébés qui étaient en train de mourir à la naissance. C'est tout ce qu'il a fait. Quand il a prêché, il a fini par se faire assassiner. Martyr. À ce moment-là, les autochtones de l'île ont quand même réussi à faire comprendre, à faire passer un message au supérieur de ce prêtre. Il semble bien que c'est un prêtre des pères de Pictus. Et ils ont fait passer un message en disant, votre prêtre, il est enterré, quoi. Il faut peut-être nous envoyer un autre. Ils ont envoyé un autre prêtre. Il arrive, il a baptisé toute l'île. Toute l'île s'est jetée aux genoux de ce prêtre, a demandé le baptême. Le sang des martyrs amène justement la conversion. Le sang des martyrs amène la conversion. Mais c'est pareil pour nous, mes chers frères. On travaille pour le bon Dieu. Regardez encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez, dans bien des cas, on le voit dans les... j'ai lu par exemple aussi certains récits missionnaires en Chine. Il fallait voir les premiers missionnaires. C'est épouvantable comme vie. Et des langues impossibles à apprendre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens techniques très, très élaborés pour apprendre des langues. Ils devaient apprendre des langues dans des conditions absolument invraisemblables. Ils vivaient dans une misère noire. En général, ils finissaient à la casserole ou presque. Et puis, au début, ils baptisaient presque personne. Et puis, petit à petit, il y a des chrétientés qui se sont créées. Et il faut voir les persécutions. Les martyrs de Nagasaki, peut-être les martyrs qui ont le plus souffert sur le plan physique. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a toujours utilisé le sang des martyrs comme un pouvoir de conversion. Même chose pour nous. Est-ce que le bon Dieu va nous demander les martyrs? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il nous demande de conserver la foi. Il nous donne les grâces pour conserver la foi envers et contre tout. Même si c'est contre tout, conservons ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Prenez le catéchisme du Concile de Trente, prenez le catéchisme de Saint-Pédis et vous conservez tranquillement ce qui a toujours été enseigné par l'Église. Alors, mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est là. Elle est la mère de l'Église, il ne faut pas oublier, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait juste avant de mourir. Juste avant de mourir, il nous l'a donné pour notre mère. Elle est au pied de la croix. Qu'est-ce qu'il dit à Saint Jean qui représente l'Église? Saint Jean vient de se faire ordonner prêtre, consacré évêque la veille. Voici ta mère. Et à toi, Sainte Vierge Marie, voici votre fils. Donc la Sainte Vierge Marie, c'est la mère de l'Église. C'est la mère du prêtre, c'est la mère du fidèle. Donc nous avons une mère au ciel qui veille sur nous et qui va nous aider justement à ne jamais nous décourager parce que nous sommes, comme le dit l'épître de Saint-Pierre d'aujourd'hui, nous sommes guéris par les meurtrissures du Christ. Nous demandons cette grâce de ne jamais, jamais, jamais nous décourager. Conserver la foi catholique et ne pas utiliser, je dirais, la situation très spéciale dans laquelle nous devons pratiquer notre foi aujourd'hui. Ne pas utiliser cette façon très spéciale que nous avons à suivre aujourd'hui, ne pas utiliser ça comme une raison pour s'écarter de la foi. La foi ne peut pas changer, mes bien chers frères, parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas changer. Il est Dieu, il restera Dieu jusqu'à la fin des siècles, pendant toute l'éternité. Nous demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses, à les mettre en pratique, à les transmettre à nos enfants. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.